C'est James Biensi, mon nom. Mon épouse s'appelle Riziki Biensi. Dieu nous a bénis avec trois enfants, Melissa, Vanessa et Godson. Nous vivons à Bounia, mais Dieu fait grâce que nous puissions le servir, pas seulement à la Seca là où nous sommes, mais à travers toutes les églises et toutes les portes que le Seigneur nous ouvre, car il ne nous a pas demandé de rester, mais il nous a demandé d'aller. Alors, j'essaye d'aller le plus que je peux, sans aussi handicaper ma famille qui a tellement besoin de moi. Alléluia. C'est pourquoi la fois prochaine, quand vous allez m'inviter, je refuse de venir, ne m'en voulez pas. Si c'est le moment où je dois être avec la famille, elle a aussi besoin de moi, comme vous avez besoin de moi. C'est pourquoi j'essaye dans chaque année de sortir plus ou moins trois fois, en raison de trois semaines à un mois au maximum. Cela signifie que je suis parti de chez moi pendant plus ou moins trois mois dans une année. Et les autres, je ne les compte pas car ce sont les week-ends où je dois sortir le vendredi et revenir le dimanche. Nous essayons de faire ce que nous pouvons par la grâce que le Seigneur nous a accordée. Sans plus perdre le temps, nous allons tout droit dans le message de ce jour, qui sera aussi le message de toute la semaine. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui, je vais juste peut-être introduire, mais pendant toute la semaine, venez, nous allons développer cet enseignement. Notre grand thème sera célébrer la Pentecôte sous toutes ses dimensions. Célébrer la Pentecôte sous toutes ses dimensions ou dans toutes ses dimensions. La Pentecôte est une fête que l'Église célèbre très timidement. Si je vous posais la question, la dernière fois que vous avez suivi un enseignement sur le Saint-Esprit dans votre Église, vous risquez de me dire que c'était l'année passée, le jour de Pentecôte. Vrai ou faux? Peut-être que chez vous, vous enseignez régulièrement sur le Saint-Esprit, mais dans beaucoup de nos églises, nous enseignons tout, sauf le Saint-Esprit. Nous craignons le Saint-Esprit peut-être, ou nous craignons de devenir pentecôtistes, les uns le disent. Mais qui est pentecôtiste? C'est tout chrétien qui est pentecôtiste. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, tu as expérimenté la Pentecôte, par conséquent, tu es pentecôtiste. Alléluia. Deux fois, nous ne comprenons pas le Saint-Esprit. Nous ne l'enseignons pas suffisamment. Et c'est pourquoi nous l'appelons par tous les noms possibles que nous voulons l'appeler. Et je crois que cette semaine, nous allons tenter de comprendre, d'étudier le Saint-Esprit pour que nous puissions communier avec lui comme il se doit, car c'est la personne de Dieu qui vit en nous. Il vit en nous et vit avec nous. Par conséquent, nous devons développer de très bonnes relations pour bien communier avec lui. Et la dimension, c'est simplement une ampleur, ou mieux, une importance. Si je dis célébrer la Pentecôte dans toutes ses dimensions, c'est simplement dire célébrer cette Pentecôte dans toute son importance, avec tout le sérieux possible, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Je préfère parler de célébrer au lieu de commémorer. Commémorer, nous faisons la commémoration d'un événement qui s'est passé une seule fois, et cela est fini. Le 30 juin, nous allons nous rappeler ou commémorer la fête de l'indépendance qui a eu lieu le 30 juin 1960. Mais le Saint-Esprit, nous n'allons pas le commémorer, nous allons le célébrer, parce qu'il est avec nous. Et la Pentecôte prend place toutes les fois que quelqu'un reçoit Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient en lui, c'est encore une Pentecôte. Alléluia. C'est pourquoi je préfère parler de la célébration, nous réjouir, bénir Dieu, parce que même aujourd'hui, la Pentecôte va prendre place, je crois. Alléluia. Et c'est pourquoi, sans plus perdre le temps, venez avec moi, le même texte que nous avons considéré et lu au début de ce culte, c'est notre texte du jour, les Actes des Apôtres, chapitre 2e. Nous allons le lire du 1er au 22e verset encore. Et parce que vous serez assis pour longtemps, je vais vous demander de vous tenir pendant que nous allons faire la lecture. Aujourd'hui, le culte ira jusqu'à 13h parce que c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Alors préparez-vous moralement pour un message de plus ou moins 2 heures de temps, comme c'est la Pentecôte. Et si vous aviez des rendez-vous, commencez à dire c'est fini, c'est foutu. Pour moi aujourd'hui, je ne vais pas aller à ces rendez-vous-là. Nous lisons Actes des Apôtres, n'ayez pas peur. Je ne serai pas si long. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er et la suite. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?» Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vanité. » Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour seulement. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit et sur tout mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comment, quand vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fut retenu par elle. Parole du Seigneur pour nous que nous pouvons applaudir. Père, parle-nous pendant ces quelques minutes, utilisant comme un instrument de ta main, au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. Et ça, c'est l'un des passages que j'aime. C'est un passage grand et grandiose, parce que c'est le passage qui établit la naissance de l'Église. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la promesse accomplie. Et je voudrais prier ce jour que la promesse que tu attendais de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Le jour de la promesse accomplie. Le prophète Joël l'a annoncé il y a longtemps. Il a prophétisé comme nous l'avons lu dans les récits que Pierre nous donne dans sa prédication. Mais Jésus lui-même l'avait promis à ses disciples.
À plusieurs reprises, pendant qu'il était en train d'enseigner et de parler avec ses disciples, surtout quand il promettait son départ vers le ciel, ils étaient tous troublés, se disant, mais comment? Tu es avec nous? Tu es le prophète qu'on attendait, peut-être mieux, le libérateur que nous attendions, et tu nous dis que tu vas aller au ciel, et tu vas encore nous laisser. Et il va leur dire à plusieurs reprises, il faudrait que je m'en aille, afin que la promesse du Père s'accomplisse. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Il faut noter, dans l'Ancien Testament et jusqu'à cette période, le Saint-Esprit ne venait que pour certaines personnes, ne venait que pour certaines circonstances et repartait au ciel. Il dit, vous ne serez pas en mesure de bien vivre la vie chrétienne aussi longtemps que vous n'expérimentez pas d'une manière particulière et personnelle, individuelle, le Saint-Esprit. Il faudrait que je m'en aille. Et il a promis, et il a promis. Et avant son départ, il place un commandement. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, partant du 6e verset, il dit, écoutez, vous restez cette fois-ci strictement où? À Jérusalem. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et vous remplisse. Et qu'il vous mette en action. Que vous deveniez alors, à partir de ce moment-là, mettez-moi, commençons par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Restez et attendez. Et alors, il reste, après que Jésus soit arrêté, comme vous le savez, maltraité, comme vous le savez, crucifié, comme vous le savez, enterré, comme vous le savez, mais ressuscité des morts. Les disciples étaient très stressés. Très confus, très peureux. Ils s'enferment alors dans la maison, comme le commandement est formel, ils continuent à prier. Et ils prient jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Et ce jour-là, c'est le jour même où le Saint-Esprit descend avec puissance pendant qu'ils étaient en prière. Et il descend et il se répand sur eux sous forme de langue de feu. Chacun avait sa portion et sa part. Alléluia. Je vais prier que le moment arrive et que chacun d'entre nous ne dépende pas du Saint-Esprit qui est sur le pasteur, sur le dirigeant. Non, que chacun ait sa portion. Alléluia. Il est pour nous tous. Ce n'est pas autant dit que chaque fois il faudrait toujours courir chez les pasteurs. Pasteur, je suis encore malade. Pasteur, j'ai encore des problèmes. Quand le Saint-Esprit est en toi, est avec toi, est sur toi, tu peux résoudre tes problèmes toi-même. Parce qu'il est en toi, il vit en toi et il est avec toi, il t'accompagne en tout et partout. Et alors, chacun avait sa portion. Et ils ont commencé à louer Dieu. Et ils ont loué Dieu, curieusement, ils ont loué Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Mais des langues qui étaient évangélistiques, parce que comme ils étaient en train d'adorer et de louer, il était presque impossible pour eux de rester dans la chambre. L'adoration doit nous amener dehors. L'adoration doit attirer les gens vers nous. Alors les multiples ont accouru. Pour aller savoir qu'est-ce qui se passe. Ils arrivent, ils trouvent chacun en train d'adorer, mais dans des langues multiples, dans des langues évangélistiques, parce que les Arabes écoutent les Galiléens parler arabe. Alhamdulillah. Et ils se disent, ça c'est quoi? Les Crétois, chacun. Ils se disent, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'il disait n'était pas seulement des paroles inutiles, mais il disait des paroles évangélistiques, adorant Dieu dans les langues des gens qui les écoutaient. Et les gens se disent, waouh, ces gens sont des Galiléens, nous le savons. D'ailleurs, nombreux d'entre eux n'ont même pas étudié. Qu'est-ce qui se passe? Ils se posent des questions qui n'ont pas une réponse. Et finalement, Pierre se lève. Et il commence à donner la réponse. Systématiquement, il prêche pendant des heures jusqu'à ce que la congrégation l'arrête et dit, arrête Pierre, trop c'est trop. Nous voulons réagir. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais prêcher jusqu'à ce que vous puissiez m'arrêter. Alléluia. je vais prêcher jusqu'à ce que vous puissiez dire, pasteur, ça suffit. Pierre prêche, il commence avec des prophéties. Comment Joël a promis ceci, il va plus loin, il parle de David, comment David a vu et vécu ceci, et finalement il arrive à Jésus lui-même, et il prêche pendant des heures, dans le verset 37e, au milieu de sa prédication, quelqu'un lève la main et dit, Pierre, s'il te plaît, toi et tes amis là, dites-nous, que devons-nous faire? Nous avons déjà écouté, nous avons compris, nous sommes convaincus, que devons-nous faire? Pierre saute du développement de son serment à la conclusion. Et il met la conclusion si simple, si attractive. Il dit, hé, repentez-vous et croyez. Et soyez baptisés au nom du Seigneur. Et lui dit, c'est tout ce que vous nous demandez. C'est seulement ça. Pierre dit oui. Il dit, nous voici. Il n'était pas deux, il n'était pas dix. Il n'était pas 100, il n'était pas 200, il n'était pas 1000, il n'était pas 2000, 3000 hommes, tous sont venus au Seigneur. Ils disent, nous voici, nous croyons, nous voulons donner nos vies au Seigneur. Et Pierre et ses disciples, les autres qui étaient là, ses compagnons, se disent, tombe Vatican en l'air. This is serious, c'est très sérieux. 3000 hommes. Or, il fallait profiter. Ils ont cru, il faut les baptiser. Ils font tout droit. Hey, je prie que le Seigneur vous donne ce genre de conversion. Où les pécheurs de Goma viennent, pas à 10, pas en centaines, mais à milieu, dire, nous nous repentons de nos péchés, nous nous repentons de notre incrédulité, nous venons au Seigneur. Et ce jour-là, je ne sais pas où est-ce que nous allons baptiser. Sûrement, ce sera dans le lac. Et on va inviter tous les pasteurs de Goma, descendons, baptisons les 3000, les 5000, les 10000. Prions pour ce temps, alléluia. Prions pour ce temps. Et qu'est-ce qui se passe? Après, vous savez, l'église est née. Ils ont continué à se réunir, s'asseoir, sous les pieds des disciples, ils étaient enseignés, affermis, et ils ont tous grandi dans la foi, et ils sont allés à travers le monde. Quand la persécution est arrivée, ils ont prêché l'évangile. Les uns de notre côté, les autres de notre. Et ainsi, aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de cette grâce. L'évangile nous est arrivé. Quand nous célébrons la Pentecôte, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions savoir que cette Pentecôte, le plus souvent, nous en parlons dans une seule dimension. Mais aujourd'hui, je vais soumettre deux ou trois dimensions dans lesquelles nous devons chaque fois célébrer la Pentecôte. Et toutes les fois que nous pensons à la Pentecôte, nous devons comprendre ces choses. La première dimension que je voudrais vous soumettre, c'est la dimension résidentielle de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Quand nous célébrons la Pentecôte, au-delà de toutes choses, nous devons comprendre que la Pentecôte, c'est le jour où Dieu a décidé de se créer une nouvelle résidence. À part son trône au ciel, Dieu s'est créé une nouvelle résidence et cette résidence s'appelle toi. En d'autres termes, cette résidence s'appelle moi. Alors tu peux mettre ton nom. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens automatiquement une nouvelle résidence du Saint-Esprit. Et Jésus l'a clairement dit. Ceux qui auront cru, moi et mon Père, nous ferons notre résidence en lui. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait temporairement et il travaillait sélectivement. Il venait et se posait le plus souvent sur trois groupes de gens. Le premier, c'était les prophètes. Il vient, il se pose sur le prophète, il oint le prophète, il lui donne un message et le prophète prophétise pendant un temps. Quand il termine son devoir, le Saint-Esprit est parti. Il redevient une personne normale comme vous et moi. Jusqu'à ce qu'encore le Saint-Esprit revienne pour la deuxième, la troisième fois, pour lui donner un message. Le deuxième groupe de gens, c'était les rois. une fois qu'un roi était roi, le Saint-Esprit venait se poser sur lui. C'est pourquoi vous apprendrez que quand l'Esprit est parti de qui? De Saül, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été complètement foutu. La porte a été ouverte même pour les mauvais esprits de faire quoi? De l'habiter. Et vous trouverez que David, quand il va pécher, dans le psaume 51, la plus grande chose dont il avait peur n'était même pas la mort, moins encore la prison, c'était que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu le quitte. C'est pourquoi il plaide avec le Seigneur, pardon, ne permets pas que ton esprit me quitte. Pourquoi? Parce qu'il a su, il a vu, il a expérimenté ce qui est arrivé à son prédécesseur. Le Saint-Esprit. Quand nous célébrons la Pentecôte, célébrons que maintenant dans la Nouvelle Alliance, Dieu a décidé d'envoyer le Saint-Esprit. Jésus le fait et il permet maintenant que la troisième personne de la divinité de Dieu vienne et fasse résidence en nous. Ceci est clairement dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, que quelqu'un peut lire pour nous rapidement. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, la Bible déclare hautement et clairement que nous sommes en lui. Vous êtes devenus édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes devenus, nous sommes édifiés pour être une habitation de qui? C'est pourquoi l'apôtre Paul le dira beaucoup plus loin. Rappelons aux chrétiens de Corinthe. Ne savez-vous pas que vous êtes, que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? N'oubliez pas ça. Bien-aimés, quand nous célébrons le Saint-Esprit, quand nous célébrons la Pentecôte, nous devons savoir que la première dimension, c'est la dimension résidentielle. Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit vit en nous. Et s'il vit avec nous, il a un travail qu'il fait à nous. Et le plus grand travail qu'il fait à nous, c'est nous faire porter le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit en nous, projetez-le si vous le pouvez. Le fruit de l'Esprit en nous, le fait qu'il est en nous, le fait qu'il travaille en nous, nous fait porter ce fruit. Et ainsi nous devenons comme lui. Galates chapitre 5, verset 22. Vous n'avez pas une Bible, vous les gens de la production, de la projection, ok? Galates 5, rapidement, lisons. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est 1. L'amour, 2. La joie, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Saint-Esprit vit en nous, l'amour doit nous caractériser. La joie doit nous caractériser. La paix, la stabilité doit nous caractériser. La patience doit nous caractériser. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ces choses doivent nous caractériser. Parce que ça, c'est le travail du Saint-Esprit en nous. La question que je me l'ai posée. Comment arrive-t-il que nous qui déclarons que nous sommes chrétiens, continuons à pécher encore? La réponse est simple. C'est parce que nous ignorons que le Saint-Esprit vit en nous. Un chrétien sauvé, né de nouveau, baptisé et qui sert le Seigneur, mais qui vit encore dans le péché. C'est un chrétien qui ignore que le Saint-Esprit est en lui. Et c'est pourquoi le passage que le pasteur a lu, avant que nous puissions aller dans la confession, nous parle de ce que nous ne puissions pas faire quoi? Attrister le Saint-Esprit. Nous l'attristons par nos mensonges. Nous l'attristons par notre retard à l'église. Nous l'attristons par nos querelles. Nous l'attristons par nos mauvaises pensées. Nous l'attristons. Or, il y en a qui croient que non, il est plus loin. Nous pensons toujours comme les chrétiens ou bien les croyants de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit est au ciel. Il viendra quand le besoin va se présenter. Il est en toi. Il voit. Il écoute. Il observe tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, quand, où, quand tu veux, mais il est là avec toi. C'est pourquoi nous n'aurions pas pu vivre une vie de duplicité pendant que nous avons un témoin oculaire qui ne dort ni ne sommeille. Au campus, quand tu triches, il te voit. Dans le magasin, quand tu doubles le prix, il te voit. Au bureau, quand tu falsifies les factures, il te voit. Il est en toi, il est avec toi. Quand bien même il ne parle pas à haute voix, pour certains, il a tellement parlé qu'il est devenu silencieux et te regarde seulement. Parce qu'il y en a qui ont tellement attristé le Saint-Esprit à tel enseigne que leur conscience, la Bible le dit, est brûlée. Donc, quelqu'un qui pêche avec ce que vous dites, cœur dur. Il y en a qui pêchent et qui vont dire, non, non, Dieu va comprendre. Ceux-là sont plus nombreux. Dieu va comprendre. Alors Dieu est devenu votre master, il va comprendre. Si nous comprenons la dimension résidentielle du Saint-Esprit, notre vie chrétienne va être différente. Nous n'aurons pas le temps pour la confession dans les cultes. Non, parce que nous confessons à chaque instant que nous pensons que nous avons péché. Ça devient notre style de vie. Quand nous venons dans sa présence, c'est pour l'adorer dans toute sainteté. Et cela en esprit et en vérité. Vous quittez la maison consciemment après avoir insulté votre femme, votre mari ou vos enfants ou encore le portier et vous venez à l'église et vous dites, mais t'as tout pour parler, quand il y a tout bien. Il y en a qui abusent même les chauffeurs en route ici et vous dites, non, pendant le tout bien, je vais tout bon. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre cette première dimension résidentielle du Saint-Esprit pour que toutes les fois, tous les jours, partout, que nous puissions communier avec lui. Parce qu'il est plus loin, il est avec nous, il est en nous. Le jour où nous avons reçu Christ, le Saint-Esprit est venu et il habite. Dis à ton voisin, tu es le temple du Saint-Esprit. Dis-toi, dis-toi, tu es le temple du Saint-Esprit, par conséquent, sois très conscient de cela. C'est la première dimension. Et ainsi, nous pouvons développer cette relation, cette communion avec le Saint-Esprit sans peur. La deuxième dimension, à cause du temps, c'est la dimension restaurative et réunificatrice. La dimension restaurative. Vous allez vous rappeler, mes amis, que dans Genèse chapitre 11, un grand incident a pris place à Babel. Là où les nations de la terre se sont décidées de construire un grand étage, un grand bâtiment où ils vont aller chercher Dieu dans les cieux. Ils se sont mis à l'œuvre, chacun a contribué. Et ils ont travaillé jour et nuit parce qu'ils voulaient construire une tour qui irait jusqu'au ciel. Et ils ont fait ça jusqu'à ce que Dieu a été surpris. Dieu surpris au ciel de l'entreprise des hommes sur terre. Il dit, organisons-nous. Le gouvernement central du ciel s'organise. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils tiennent un conseil ou une réunion céleste et ils décident de descendre. Ils disent, descendons, allons voir ce qu'ils font. Et quand ils viennent, ils évaluent le travail. Voici la déclaration de Dieu. Ces hommes sont terribles. S'ils peuvent faire ça, ils vont nous atteindre. Si on les laisse continuer, si on les laisse continuer, rien de ce qu'ils vont décider de faire ne leur sera impossible. Alors ils sont dangereux. Ça, c'est le pouvoir de l'unité. Alléluia. Je parlerai de ça un autre jour. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu dit? Confondons-le. Et confondant leur langage. Alors Dieu le décide et l'exécute. Tout d'un coup là, le maître maçon qui est là demande de l'eau, on lui amène la brique. Il demande le bâton, on lui amène la cuillère. Ah, imaginez-vous le scénario qui s'est passé là. Je demande de l'eau, tu m'amènes la brique. Et vous savez ce que le maître pouvait faire? Vous êtes en bas là-bas. Il laisse seulement la brique tomber sur ta tête. Oh! Ah, les gens commencent à s'insulter. Ils commencent à s'abuser. Finalement, ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, le travail s'arrête. Et les gens se dispersent. Et ils se dispersent. Après s'être dispersés, ils commencent à se regrouper. Ils se regroupent comment? Selon les langues qu'ils pouvaient comprendre. C'est ainsi que les Bafuliro, les Batembo, les Banande, les Bangombe, les Bashi se sont regroupés. Et après, vous savez ce qui se passe? C'est que ces gens-là sont nos ennemis parce qu'ils ne nous comprennent pas et nous ne les comprenons pas. La meilleure des choses, dispersons-nous. Et Dieu les disperse sur la face de la terre. Ils sont partout. Mais le jour de la Pentecôte, un miracle est en train de prendre place. Parce que maintenant Dieu restaure d'abord la langue qu'il avait confuse. Maintenant il l'unit par la langue du Saint-Esprit que tout le monde peut comprendre. Il restaure les hommes qui devraient être des ennemis hier, ils deviennent un parce qu'ils se comprennent, pas seulement se comprendre à base de quoi, pas la politique, pas la science, pas quoi, mais l'évangile. Ils s'entourent autour de l'évangile, ils sont tous unis, réunis. La langue qui était hier une malédiction devient aujourd'hui une bénédiction parce que la langue prêche et diffuse la bonne nouvelle, l'évangile de Christ. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous efforçons par tous les moyens pour traduire la Bible dans toutes les langues possibles afin que chacun écoute l'évangile dans sa langue maternelle. Bien-aimés, si vous avez l'opportunité, participez dans la traduction de Bible dans vos langues. C'est important. C'est un grand investissement pour le royaume. Alors, ils sont réunis. Ils écoutent. Chacun écoute l'évangile prêché dans sa langue maternelle. Ils sont éblouis. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Dieu est au travail. Alléluia. Je viens vous annoncer que la Pentecôte, c'est le moment de célébrer l'unité à travers Jésus-Christ. Bien sûr, nous étions séparés par nos tribus, mais réunis autour de l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes devenus une famille. Par conséquent, nous devons apprendre à vivre ensemble, unis, appréciant l'un et l'autre, sa tribu et sa culture. Ça, c'est sa culture, ça, c'est son héritage, mais le plus grand héritage que nous avons, c'est le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous suit. Si nous comprenons cette dimension, la dimension restaurative, la dimension unificatrice, le tribalisme ne prendrait pas place parmi nous. Or, c'est le plus grand problème, la plus grande maladie que nous avons même à l'Église. Peut-être pas chez vous, mais il y a deux ou trois instances où le sang de votre tribu devient plus lourd que le sang de Jésus-Christ. La première instance, c'est pendant le mariage. Que votre fille vous amène un garçon d'autre tribu. Que votre garçon vous amène une fille d'une autre tribu. C'est là que le sang de votre tribu devient plus lourd que le sang de Jésus-Christ. Quand le frère vient dit, papa, j'ai trouvé une femme. Vous savez la première question qui se pose, ni va pas bien. Ça, c'est pas ici chez vous, ça c'est chez nous. C'est pas ici, ça c'est chez vous, je parle de ce qui se passe chez vous. Ni va pas bien. Or, la première question qui devrait venir serait Anéokota. Est-il entré dans notre famille? Parce que notre famille, c'est la famille de Christ. Alléluia! Mais beaucoup parmi nous sont d'accord. Mon âme est après chrétien. Au lieu d'être chrétien, mon âme. Ça sont deux choses différentes. Je n'ai pas seulement changé le nom. Ou je n'ai pas seulement joué avec le mot. Un mon âme de chrétien. C'est quelqu'un, c'est un mon âme qui n'est pas encore sauvé, mais qui s'appelle chrétien. Il ajoute à sa tribu le christianisme. Mais un chrétien mon âme, c'est quelqu'un qui est sauvé parce qu'il a reçu Jésus-Christ. Il a changé son identité, mais il est issu de la tribu Nande. Parce que finalement au ciel, quand nous allons nous regrouperons selon nos langues, selon nos tribus. Mais tous lavés par le sang de l'agneau. Alléluia. Chez nous, quand même c'est la visite de maman, quand on annonce, c'est pas quelqu'un de votre tribu, vous n'avez pas intérêt d'aller. Ça c'est chez nous. Ici non. Quand c'est le deuil, il n'est pas de chez nous. C'est pas grave. Quand c'est la maladie, il est à l'hôpital. Il n'est pas de chez nous, c'est pas grave. Après tout, il n'est même pas membre de notre, pas seulement tribu, il n'est même pas membre de notre communauté locale. Il n'est même pas de notre colline. On commence à faire les subdivisions même. Quand vous êtes dans une même tribu, vous commencez à faire la subdivision. Ok, c'est vrai, il est de... C'est vrai, il est mon âme. Mais de quel village? Donc, le village ne suffit pas. On va plus loin. De quel clan? On va plus loin. Quelle colline? On va plus loin. Qui était le grand-père? Bon, nous ne sommes pas unis après tout. C'est pas grave. Je peux vous parler. Si nous comprenons la dimension restaurative et réunificatrice de la Pentecôte, nous allons savoir que nous sommes achetés par le même sang. Oh, bien-aimé, appartenant à un seul maître, servant le même Seigneur, et nous irons dans le même ciel. C'est pourquoi votre tribu a changé. Elle s'appelle la tribu du lion de Juda. J'appartiens à la tribu du lion de Juda, la tribu de Christ. C'est pourquoi Paul le dit là, désormais il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres, nous sommes tous un en lui. Il n'y a pas de femme, le genre est respecté. Plus d'esclaves ou quoi, le statut social ne nous sépare plus. Nous sommes un. Ma question, qu'est-ce qui pèse plus? C'est le sang de votre tribu ou le sang de Christ? Le deuxième moment le plus crucial où vous voyez que le sang de votre tribu pèse plus que le sang de Christ, c'est pendant les élections. Pendant les élections, même dans la chorale. Même dans la chorale, on commence à se regrouper selon la tribu. Nous ne jugeons pas les gens par le contenu de leur caractère, par leur compétence, par leur vision, par leur engagement, par leur... Mais on pose la question. Alors, maman, tu parles de...
L'écotouisme. Une maladie qui détruit l'église. Le poétouisme. Toi qui vas pour tout. Que Dieu nous aide et qu'il nous délivre de cette maladie.
Nous devons arriver au point où nous jugeons les gens parce que le Seigneur est en train de mettre en œuvre ce qu'ils sont en mesure de faire, ce qu'ils peuvent offrir pour le royaume.
Pas seulement perpétuer nos tribus ou promouvoir nos tribus. Nawakwe Toku est pas allé. Pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est ainsi que l'Église souffre avec des incompétents. Kiyogoz Yabama incompétent. Wabidjan incompétent. Hein? Seulement Nawakwe tout. L'écotouisme, ça doit finir.
Si nous appartenons à Christ, nous sommes unis, nous sommes un, les tribus n'ont plus de place.
Si j'avais le temps, j'allais continuer. La troisième et la dernière dimension que je vais vous soumettre à cause du temps, c'est la dimension du réveil de pouvoir. La dimension du réveil de pouvoir pour un ministère efficace. La dimension du réveil de pouvoir pour un ministère efficace. Ici, vous voyez la transformation qui se passe dans la vie de Pierre. Pierre, hier, pendant que Jésus était en train d'être arrêté, a été intimidé par une servante, une esclave. Très peureux. Il renie Jésus-Christ. Combien de fois? Trois fois. Et cette fois-là, quand la fille est arrivée, seulement en train de servir le thé, une servante. Une servante, il dit, toi, tu étais avec ce monsieur. N'est-ce pas? Tu étais avec nous. Je m'imagine Pierre commencer doucement d'abord. Avec le signe. Pour dire à la fille. La fille ne comprend pas le langage. Elle fait ça. La fille ne comprend pas le langage. Elle fait. La fille ne comprend toujours pas le langage. Elle fait, il fait ça. Si tu veux passer avec ton thé, va servir à lui. La fille insiste. Finalement, Pierre se trouve très dérangé et en danger. Il décide de se lever. Il dit, Marie, à quoi? Ma cambrocole, ma belle. L'état qu'il cherche à disparaître. Tout le monde témoigne. Il dit, ah, d'ailleurs, même ta démarche lui ressemble. Bien-aimé dans le Seigneur, si réellement nous sommes sauvés, les gens doivent le voir. Ils doivent le témoigner. Ils doivent le voir dans notre attitude, dans nos habitudes, dans notre culture, dans notre coiffure, dans tout, que les gens disent, oui, on est encore quand. Ne me dites pas que non, à cause de la fashion, je vais m'habiller comme je ne sais pas quelle superstar. Notre superstar s'appelle Jésus. Amen. Si tu es sauvé, veille sur ta chevelure, veille sur ton pantalon, veille sur ta jupe, veille sur toi. Nous devons être différents. Qu'on ne te voie pas, on dit, ah, ça c'est les femmes de Fali, pendant que tu es chrétien ici. Chique, me dit dans le Yesu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Quelles sont les choses anciennes? Ces mauvais habillements, ces mauvais langages, ces mauvais amis, ces mauvaises habitudes, toutes ces choses doivent. Et maintenant, on doit nous voir marcher dans la nouveauté de vie. Nous devons marcher dans la nouveauté de vie, dans la nouveauté de langage, dans la nouveauté de toutes choses. Et alors, on dit, même ta démarche a changé. Je ne parle pas de la démarche hypocrite. Je ne parle pas de l'habitude hypocrite des protestants. Dans la rue, on est tous ce qu'on est.
On travaille, on est tous et qu'on est, mais quand on s'approche de l'église, même la main change parce que on commence à parler comme des missionnaires blancs. On n'est plus qui on était. Nous voulons vous voir transformé au campus, au bureau. Si tu es taximètre, transformé. Hier, j'ai voulu surprendre le pasteur. Je suis arrivé de Nairobi. J'ai pris mon avion Kigali. J'ai pris le bus. J'arrive ici. J'ai pas voulu appeler qui que ce soit. J'arrive à la barrière. Je prends une moto. Je demande au motard, c'est combien d'ici chez Rudolph? Il dit $5. Je le regarde dans les yeux. Ça vaut comme Moïse, hein? Tel un Moïse, il m'avait choqué. Il me regarde. Je continue, le deuxième arrive, il me suit. Baba naomba tu basi tafadhali tungeliongea. Sasa wewe peke ongea. Sema mimi kasa bado uko mwizi. 4000. Ninaomba tu nikubebe 4000 basi kwa sababu kule ni mbali. Sasa nimekusamehe. So twende. Nous arrivé. On arrive ici. En tout cas, il était calme. Toutes les questions que je lui posais, il répondait très gentiment parce que je l'ai décrit comme il devait être. Je lui ai dit, quand je suis monté, il dit, prochainement, il ne faut jamais traiter quelqu'un comme un étranger. D'ailleurs, il vaut mieux traiter les étrangers, les gens qui ne connaissent pas chez vous. Il faut bien les traiter parce qu'ils vont avoir un bon témoignage de notre pays. C'est vous qui détruisez le Congo. Il dit, non, parce que tu croyais que j'étais un étranger. C'est pourquoi tu as mis ces prix là-bas. Alors quand nous sommes arrivés ici, il s'attendait à 4000. Je lui donne 5000, je dis, on me fait un cas d'imzou. Il me regarde, il dit, elle là. Qu'est-ce que je vais lui dire, mes amis? La dimension du réveil, la puissance, c'est la dimension où le Seigneur nous donne la puissance pour le servir. Pierre qui était peureux devient un puissant prédicateur. Il prêche pendant 2 heures. Ce qu'il craignait de dire avant, il le dit à haute voix, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a été envoyé ici parmi nous, vous l'avez tué. Vous l'avez tué, vous l'avez crucifié. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui d'elle. Il parle à haute voix et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, tous convaincus viennent vers la croix. Bien-aimés, cette troisième dimension, vous en avez besoin, jamais besoin. J'ai besoin d'être revêtu du Saint-Esprit pour que mon témoignage chrétien, pour que mon partage de la foi ait une puissante conviction que le pécheur revienne vers le Seigneur. Bien-aimés, quand il a prêché, la conséquence même de cet événement, c'est qu'il y a 3 choses qui se sont passées rapidement. La première conséquence directe, les gens ont accouru. Ils sont venus voir. Ils sont venus entendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma prière pour nos églises. Que les gens puissent accourir pendant que nous adorons le Seigneur. Car l'adoration est inspirée du Saint-Esprit. Nous attendons que les gens puissent accourir, écouter le message, parce qu'il est oint par le Saint-Esprit. Nous attendons les gens à courir vers l'église parce que l'amour abonde parmi nous. Ils ont à courir. La Pentecôte signifie que les gens viennent vers le Seigneur, attirés par ce que le Seigneur fait parmi nous. Mais qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de nos églises? Les gens accourent quand le pasteur est en train de se chamailler avec sa femme. Ils accourent quand le pasteur est en conflit avec son assistant. Ils accourent quand ils apprennent que non, il y a une sœur de la chorale qui est tombée enceinte. Ils viennent, ils regardent et ils rentrent avec les mains sur la tête de ça. Oui. Kama ile jo kanisa. Heri nifanye nini? Nibakie kwangu. On dit qu'ils accourent vers l'église, ils courent de l'église. Pourquoi ils courent? Parce que l'église n'est plus une famille. C'est une association tribale. Ils courent de l'église parce qu'il n'y a pas l'amour. Il court de l'église parce qu'il n'y a pas la sainteté. Que le Seigneur nous aide. Ils ont couru à l'église. Ils ont entendu le message.
Nous attendons cette salle qui est devenue petite. Très bientôt, j'apprends que nous avons un chantier. Nous allons déménager. Nous voulons voir les hommes et les femmes accourir parce que là, ils vont trouver Dieu. La deuxième conséquence, les gens ont témoigné le changement.
Il y a eu témoignage. Les gens se posaient la question, ne sont-ils pas tous galiléens? Que se passe-t-il à travers ces simples galiléens? J'aimerais que les gens témoignent. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Georges? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Martine? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des Kasserin Kakasoki? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas Kasoki que nous connaissions ici? N'est-ce pas Mouindo que nous connaissons ici? Mais qu'est-ce qui se passe?
Une vie transformée.
Une vie transformée. Une vie transformée. Ça, c'est ce que nous voulons voir et que le monde veut voir. Mais pas la confusion du genre où on vous voit autrement. Dehors, et quand vous êtes à l'église, quelqu'un vient visiter, on vous cite parmi les anciennes églises, on vous cite parmi les diacres, tout ça. Waouh! Celui-là est diacre. Ah! Celui-là est choriste. Oui, oui, oui. Dounia est héroïque. Or, c'est ça ce qui se passe le plus souvent.
Nous n'avons pas cette distinction. Nous n'avons pas ce changement radical dans notre vie. La troisième conséquence, les gens cherchent des explications. Les jours de Pentecôte, ils ont cherché des explications. Que veut dire ceci dans le 14e verset?
Qu'est-ce qui se passe dans le 12e verset plutôt? Et à partir du 14e verset, l'apôtre Pierre apporte l'explication. Il explique avec détail. Il donne réponse aux questions. Beaucoup souffrent parmi nous. Ils ont des questions de santé. Ils ont des questions de mariage. Ils ont des questions spirituelles. Ils ont des songes et des rêves qu'ils ne savent pas interpréter. Ils viennent vers vous croyant que vous êtes spirituel. Ils vous posent des questions. Comment les répondre? Nami Situ est d'abord pasteur. Il a eu un Iguan. Parlez-les d'Akoutia, vous êtes Wakanissa. Ou soit que vous les confondez davantage. Pierre a expliqué que nous ne sommes pas ivres. C'est la promesse qui se réalise. Pas seulement ça. Ceci devrait arriver. Tu dois avoir une réponse pour les troubles qui se passent dans le monde. Pour l'économie qui souffre. Pour la politique désintégrée de ce pays. Tu dois avoir une réponse. Je dois avoir une réponse. Mais laquelle? C'est Jésus-Christ la solution. Jésus-Christ la solution à tous nos problèmes, que ce soit au foyer, que ce soit au travail, que ce soit n'importe quel problème, Jésus est la solution. Mais tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Pour le faire prévaloir. Tu dois l'avoir. Pour le faire prévaloir. Si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu vas communiquer? Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Célébrons la Pentecôte dans ces trois dimensions. La dimension résidentielle, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, vit en toi. Et s'il vit en toi, tu dois vivre consciemment et consciencieusement, sachant qu'il est ici, il me voit, il m'écoute. La dimension restaurative. Il nous a restaurés. Nous ne sommes plus sous la malédiction, nous sommes sous la bénédiction. Nous sommes unis et réunis en lui et avec l'un l'autre, réconciliés. Nous devons vivre ça. La dimension du réveil, chacun d'entre nous doit être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ne sois pas satisfait de ce que tu as reçu le jour où tu as reçu le Seigneur. Personne parmi nous qui conduit une voiture
Mais c'est dit que aujourd'hui, comme j'ai rempli mon réservoir, ça suffit pour le reste de ma vie. Non. Après une semaine, le réservoir est vide. Tu auras besoin encore d'aller à la station. Tu as besoin d'aller à la croix tous les jours pour recevoir la grâce, être rempli. On n'est pas seulement rempli pour prêcher l'évangile, on est rempli pour vivre une vie de différence et être la référence. Ne me dis pas que non, ça c'est pour les pasteurs. Nous avons besoin de toi, un enseignant rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, un infirmier rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, un économiste rempli du Saint-Esprit. C'est ainsi que tu vas faire la différence là où tu es et devenir la référence pour Christ. J'aimerais terminer par prier. Parce que vous commencez à me regarder et dire, il va terminer ou il ne va pas terminer, je termine. Mais je n'aimerais pas m'asseoir avant que je puisse prier avec une personne. Une personne qui va dire, la dimension résidentielle, je ne l'ai pas encore expérimentée. Je ne suis pas sûr si le Seigneur Jésus vit en moi à travers son Esprit Saint. Je ne me rappelle pas quel jour j'ai pris la décision de m'engager pour lui. Et maintenant, je vais refaire cet engagement, prendre cette décision que le Saint-Esprit réside en moi, comme je reçois Christ pour Seigneur et Sauveur de ma vie. Ici, je ne parle pas du baptême. Je ne parle pas d'une autre expérience, si ce n'est que l'expérience du salut. Si tu n'es pas sûr, ou que tu sais, que tu n'as jamais reçu Christ pour Seigneur et Sauveur. Je voudrais te donner cette opportunité maintenant. Nos têtes sont inclinées. Nous réfléchissons sur ce message et nous prions là où nous avons failli ou défailli, que le Seigneur nous aide. Mais pendant que je prie avec cette personne, sans honte, sans peur, sans perdre le temps, lève ta main et dis, je voudrais que le Saint-Esprit entre en moi et réside en moi à partir de maintenant. Si tu as besoin de cette prière, tu vas juste lever ta main droite, là où tu es, je vais prier avec toi. Merci, 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 vous êtes nombreux, merci, merci. Je voulais inviter le Saint-Esprit pour qu'il vienne résider en vous. Comme c'est un serment, c'est un grand engagement que vous allez prendre. On ne prête pas le serment assis, on le prête debout. Levez-vous comme un signe de grande décision. Vous qui avez levé la main, tenez-vous debout. Devant le Seigneur, pas devant cette église. Nous autres, nous avons nos yeux fermés. Nous prions que le Saint-Esprit vienne résider en nous. Que tu sois papa, que tu sois maman. Sans Jésus, tu ne seras pas en mesure de vivre la vie chrétienne. Tu vas essayer seulement, tu seras religieux. Tu as besoin de lui aujourd'hui. Amen. Avec cette main droite levée devant lui, j'aimerais que tu dises cette prière avec moi. Dis cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accueille dans ma vie. Dépose ton esprit en moi. Aujourd'hui, j'ai écouté et j'ai compris ton message. Je t'accepte pour Seigneur et Sauveur de ma vie. Je renonce au monde. Je renonce au péché. Je renonce au diable. Je prends la croix pour le reste de ma vie. Saint-Esprit, tiens-moi par la main. Conduis mes pas jusqu'à la fin de ma vie. Sois mon ami fidèle. Vis en moi. Aide-moi. Et produis en moi le fruit de l'Esprit. Je t'aime, je t'adore, ô Père, pour le don de Jésus et le don du Saint-Esprit que je reçois ce jour par la foi au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Le deuxième groupe, c'est le groupe qui veut expérimenter la dimension restaurative et relationnelle. À un niveau quelconque de ta vie, tu as échoué. Ta vie semble dispersée, détruite. Tu as besoin de Dieu, qu'il te restaure sur tous les plans. Tu as besoin de Dieu qui t'aide à restaurer les relations brisées que tu as. Et tu aimerais que le Seigneur t'aide. Là où tu élèves ta main, et je vais prier avec toi. Merci mon frère, merci, merci. Nous sommes nombreux, nous sommes nombreux. Tenons-nous aussi debout et faisons cette prière rapidement. Tenons-nous debout, vous qui avez levé vos mains et vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Disons cette prière rapidement. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je crois. Pardonne mes péchés. Là où, Seigneur, je suis allé en dehors de ta volonté. Là où ma vie ne te plaît pas. Pardonne. Restaure ma vie. Et restaure mes relations. Je pardonne, Seigneur, tous ceux qui m'ont d'une manière ou d'autre offensé. Et je te demande, Seigneur, de me pardonner pour ce que j'ai offensé. Aujourd'hui et maintenant, je te reçois dans ma vie. Saint-Esprit, restaure ma vie complètement pour ta gloire et la gloire du Père. Au nom de Jésus. Amen. Et la dernière dimension, je crois que serait le besoin de tout et chacun entre nous. Nous avons besoin de lui pour qu'il nous remplisse, pour qu'il nous aide dans le témoignage chrétien, dans la vie chrétienne. Si tu as besoin de cela, lève-toi rapidement et prions ensemble. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'accompagne, qu'il te guide, qu'il t'aide dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Lève tes deux mains devant le Seigneur et prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je la reçois. Et maintenant, je reçois le Saint-Esprit avec sa puissance, avec son pouvoir, avec ses dons pour m'aider à vivre pour toi et te servir d'une manière adéquate. Saint-Esprit, éclaire-moi. Ouvre mes yeux pour voir la volonté du Père. Aide-moi à découvrir mes dons et les utiliser dans ton œuvre. Dès maintenant, je m'engage à vivre pour toi, te servir, être ton témoin Jésus, à la maison, sur l'avenue, au travail, partout Seigneur, laisse que ma lumière luise et laisse que mon sel soit senti par tous pour ta gloire. Je reçois ta grâce, je reçois ta puissance. Dès maintenant, jusqu'à la fin de ma vie, je vivrai branché en toi tous les jours pour ta seule gloire, ô mon Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse tous. Applaudissons le Seigneur. Thank you.